Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
L'une des plus grandes bénédictions que nous recevons lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ est l'assurance que Dieu ne nous abandonnera jamais. Il est l'ami fidèle qui demeurera toujours avec nous. Jamais il ne nous quittera. Voici l'une des leçons que nous avons tirées de la vie de Joseph. La Bible affirme que Dieu était avec Joseph alors que ce dernier se trouvait esclave en Égypte chez un homme nommé Potiphar. Joseph avait beaucoup perdu, mais jamais il ne perdrait Dieu. Alors Alain, comment Dieu a-t-il prouvé sa présence durant ces jours si difficiles?
Nous lisons que Dieu permit que tout réussisse à Joseph. Et il est intéressant de noter que même Potiphar s'en rendait compte. Le Seigneur était avec Joseph et faisait réussir tout ce qu'il entreprenait.
Mais comment Potiphar a-t-il pu comprendre que Dieu était avec Joseph?
Joseph a dû lui parler du Seigneur, et cela doit être un défi pour nous. Nous ne devons pas avoir honte d'appartenir au Seigneur, quelle que soit notre position sociale. Revenons à Joseph. Le fait qu'il a parlé de Dieu à Potiphar ne veut pas dire que ce dernier a cherché à le connaître. Rien n'indique une recherche de Dieu de sa part. Comme c'est triste, car Potiphar a profité de la bonté de Dieu à travers Joseph. Or, rien ne semble indiquer qu'il remercia Dieu pour cette bonté. Ce danger, un manque de reconnaissance envers Dieu nous guette tous. Même le chrétien peut l'oublier. C'est pourquoi David a écrit dans le psaume 103 au verset 2 « Que tout mon être loue l'Éternel sans oublier aucun de ses bienfaits. »
Merci Alain. Et que pouvons-nous encore apprendre sur Joseph?
Eh bien, Joseph était un homme intègre. C'est pourquoi son maître lui confia beaucoup de responsabilités, le nommant l'intendant de sa maison. Il n'était pas malhonnête, il ne volait pas, au contraire, il travaillait bien et était digne de confiance. C'est pourquoi son maître lui a même confié son argent. Or, nous savons bien que l'argent est source de tentation.
Bien sûr, mais que pouvons-nous en retenir pour nous-mêmes?
Je pense que nous devrions retenir la leçon suivante. Selon le Nouveau Testament, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons servir fidèlement nos employeurs ou nos maîtres. Lisons par exemple dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 3, le verset 22. « Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. » Il est fort probable que quelques années se sont écoulées entre le moment où Joseph fut vendu comme esclave et celui où son maître lui accorde tant de responsabilités. La Bible ne nous le dit pas, mais l'apprentissage d'une langue prend du temps. Il faut également du temps pour gagner la confiance.
Donc enfin, tout semble bien se passer pour Joseph. Quelle est la suite?
Joseph est confronté à une tentation. Il est bel homme et de surcroît charmant. Aussi, nous lisons que la femme de Potiphar le trouve beau. Elle est attirée par lui. Un jour, elle lui demande « Viens coucher avec moi ».
Mais c'est immoral.
Effectivement, elle est immorale, infidèle à son mari et égoïste. Elle se laisse emporter par ses passions charnelles et veut que Joseph tombe avec elle dans l'adultère. Si de telles passions ne sont pas aussitôt étouffées, des péchés graves seront commis. Ce que nous voyons dans la femme de Potiphar devrait servir d'avertissement pour chacun d'entre nous.
Pourriez-vous nous expliquer cela davantage? En quoi est-ce un avertissement pour nous?
Eh bien, toute activité sexuelle pratiquée en dehors du mariage est condamnée par Dieu. Et si vous êtes tenté de pécher de la sorte, rappelez-vous immédiatement le commandement de Dieu dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, le verset 14. « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et notre Seigneur Jésus-Christ ajoute au sujet de ce commandement, lors de son sermon sur la montagne trouvé en Matthieu 5, il déclare « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Eh bien moi, je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Puis, Jésus poursuit en montrant comment lutter contre ses péchés. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin. car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer.
Devons-nous pour résister à la tentation vraiment nous crever les yeux? Est-ce cela que Jésus enseigne ici?
Non, non. Jésus se sert ici de ce que l'on appelle une hyperbole, c'est-à-dire d'une exagération pour nous faire comprendre une leçon. Il ne veut absolument pas que l'on se crève un œil.
Pouvez-vous alors nous expliquer l'enseignement de Jésus?
Ce que Jésus enseigne ici est qu'il nous faut agir efficacement en résistant au mal, si nous ne voulons pas tomber dans le péché. Malheureusement, la femme de Potiphar cède à la tentation. Tragiquement, son histoire ressemble aux attitudes immorales courantes de nos jours, où la jouissance sans frein ou limite de la sexualité est présentée de façon séduisante par les médias. Ce contexte immoral exerce une pression importante sur les chrétiens et rend leur marche avec le Seigneur difficile.
Oui, ceci est bien vrai, mais pour en revenir à Joseph, comment a-t-il réagi aux tentatives de séduction de cette femme immorale?
Il lui a résisté avec fermeté. En refusant de se donner à cette femme, Joseph est resté résolument fidèle au Seigneur comme à son maître, alors qu'il aurait été si facile de céder à la séduction. Quel bel exemple que celui de Joseph! Dans le livre de la Genèse, au chapitre 39 et au verset 8, nous en parlons de lui: « Il s'y refusa ». Toute personne rencontrant la tentation devrait faire sienne ces mots et la refuser. Ces mots « Il s'y refusa » reflète aussi la fidélité et l'amour de Joseph envers le Seigneur, quel qu'en soit le prix à payer.
Comme vous l'avez déjà dit, Joseph nous montre quel est l'exemple à suivre.
Oui, et il a aussi essayé de persuader cette femme de ne pas commettre un tel péché. Dans Genèse, au chapitre 39, Joseph déclare « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici, et il ne m'a rien interdit. » Excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi abominable et pécherais-je contre Dieu? Joseph résiste donc fermement au péché, et son attitude ne peut que plaire à Dieu.
Mais la femme de Potiphar, comment a-t-elle réagi aux paroles de Joseph?
Elle ne l'a absolument pas écouté. Elle ne cesse de chercher à séduire Joseph jour après jour. Elle répète sa demande. Joseph, quant à lui, s'y oppose sans relâche. Il résiste à cette femme.
Et quelle leçon apprenons-nous de cela?
Tout d'abord que nous aurons à lutter contre la tentation, dont certaines sembleront ne plus en finir. Et nous devons nous souvenir que Satan n'a pas laissé Jésus tranquille après son expérience dans le désert. Par tous les moyens, le diable essaiera de nous faire tomber, car il veut que nous cédions au péché. Sans relâche, il nous attaquera. Aussi, nous devons veiller et tenir ferme devant le mal. Jacques déclare dans sa lettre au chapitre 4 et verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. »
Merci Alain. Joseph dut subir de fortes tentations dans sa vie, et nous découvrirons qu'il connut nombre d'injustices parce qu'il voulait demeurer fidèle et juste au service de son Dieu. Ces expériences peuvent malheureusement faire partie de notre vie dans ce monde déchu. Or, nous pouvons beaucoup apprendre de la vie de Joseph. C'est pourquoi nous nous attarderons encore sur cet épisode de sa vie durant deux autres émissions.
Nous vous invitons donc à écouter notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. En attendant, Jean-Marc va nous faire part de la dernière de ses méditations sur les paroles de Jésus trouvées dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 5 et verset 8.
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Seuls les purs demeureront heureux pour toujours, car seuls les purs verront Dieu et passeront l'éternité avec lui. Et comme nous l'avons déjà appris, seul Jésus a le pouvoir de nous rendre purs. Tout comme un bébé dans le ventre de sa mère ne peut s'imaginer le monde dans lequel il évoluera dès sa naissance, il nous est impossible de nous imaginer ce que voir Dieu et vivre à jamais avec lui représente. Le Seigneur a accordé aux prophètes tels Ésaïe, Ézéchiel et Jean le privilège d'un petit aperçu sur la vie éternelle. Ces prophètes ont cherché à écrire ce qu'ils ont vu et compris, car il désire nous donner un avant-goût de l'éternité afin de fortifier notre espérance. Voici un passage tiré du livre de l'Apocalypse, écrit par Jean. Ce sont ceux qui viennent de la grande détresse. Ils ont lavé et blanchi leur tunique dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne connaîtront plus ni la faim, ni la soif. Ils ne souffriront plus des ardeurs du soleil, ni d'aucune chaleur brûlante. Car l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux comme un berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu lui-même essuiera toutes larmes de leurs yeux. Prenons maintenant un texte écrit par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il faut se souvenir qu'à l'époque de Paul, les miroirs n'étaient pas aussi perfectionnés que ceux que nous trouvons aujourd'hui. Ils donnaient une image floue et confuse de ce qu'ils reflétaient. Ce pour dire qu'aujourd'hui, notre compréhension et notre connaissance de Dieu sont imparfaites et incomplètes. Nous le voyons mal. Mais un jour, comme un malvoyant qui reçoit des lunettes efficaces, nous verrons Dieu tel qu'il est, et ce jour-là, nous comprendrons tout. Aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sur plein de questions, notamment sur la souffrance et le mal. Le parcours douloureux de Job en est un exemple, et il nous arrive à suivre un chemin semblable, un chemin se faufilant à travers une forêt d'épreuves avec ses pièges de doute et du désespoir. Job n'a pas reçu une réponse à toutes ses interrogations, mais par la foi il a pu dire « Après que cette peau aura été détruite, moi dans mon corps, je contemplerai Dieu. Oui, moi, je le verrai prendre alors mon parti, et de mes propres yeux, je le contemplerai. » Que le Seigneur nous aide chacun à avoir cette même conviction. Le jour viendra, le jour de la résurrection, quand nous verrons Dieu parfaitement. Et alors, nous comprendrons tout. Que cette foi et cette espérance nous aident à persévérer, malgré nos larmes, sachant que le jour viendra où Dieu les essuiera de nos yeux pour toujours.
Nous remercions Jean-Marc pour sa participation aux émissions d'Espérance aujourd'hui. Nous aurons le plaisir de le retrouver, car il reviendra pour nous parler davantage de l'enseignement de Jésus.
En attendant, nous prions Dieu, afin qu'il vous accorde la joie et le privilège de connaître sa grâce et son amour, qui nous seront pleinement révélés au jour de son avènement.
Sur ce, nous vous disons au revoir.
Et à bientôt.